Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Florian Delorme.
Et nous allons parler de trains, de petits trains. Dans quelques jours, le gouvernement se verra remettre le rapport Philizot du nom du préfet chargé par la ministre des Transports de réaliser un état des lieux du réseau et de remettre ses préconisations pour éviter la fermeture de petites lignes. À l'heure où le mouvement des Gilets jaunes a mis en exergue les problèmes de mobilité dans les territoires et où l'écologie devient une préoccupation majeure, comment envisager le réseau ferroviaire de demain et quel avenir pour les petites lignes de chemin de fer? Bonjour Pierre Zambré.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en urbanisme et transport à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler peut-être, Pierre Zambré, ce qu'on appelle une petite ligne? Qu'est-ce que ça représente en termes de distance? Et puis, l'ampleur de la catastrophe déjà du point de vue des infrastructures pour commencer. On verra le volet économique après.
D'accord. Alors, pour aller vite, il n'y a pas de définition des petites lignes, ni légale, ni fonctionnelle. Ce qui veut dire que c'est un ensemble très hétérogène de lignes. Alors, on parle pas souvent, on parle aussi de lignes de desserte fine du territoire. Bon, c'est la nouvelle appellation. On parlait aussi du IC 7 à 9 si on est vraiment très technique. L'idée, c'est des lignes qui ont un nombre de trains relativement limité. Alors, selon les définitions, moins de 10 trains ou moins de 20 trains par jour, ça dépend.
Et sur les infrastructures?
Alors, l'infrastructure, ça représente à peu près 9000 kilomètres.
Mais l'état des infrastructures?
Alors, l'état des infrastructures, il n'est pas extraordinaire.
Alors, c'est ça le problème.
Il n'est pas extraordinaire, tout simplement parce que c'est un segment sur lequel on n'investit pas. Et donc, on fait de l'entretien, mais pas du renouvellement.
Et ce, depuis des années. Le grand problème aussi des petites lignes, c'est la sous-fréquentation qui les rendrait particulièrement déficitaires. Quelle est l'ampleur, cette fois-ci, de la catastrophe économique? Jusqu'où ces petites lignes sont-elles non rentables?
Alors, peut-être pour commencer, dire qu'il est rare qu'une ligne de transport public soit rentable, quelle que soit son ampleur, hein, y compris en Île-de-France, ou même l'écart sur l'écart Macron. Hein, aucun service n'est vraiment rentable.
Même les lignes de TGV ne sont pas toutes rentables.
Voilà, pas toutes rentables. Donc le problème n'est pas forcément la rentabilité, le problème est de savoir si on produit au meilleur coût par rapport au service que l'on veut assurer. Donc il y a une sorte d'équation, déjà recette-dépense, qu'il faut traiter. Or, ce que l'on observe, c'est que les coûts d'exploitation sont en augmentation assez constante dans le temps. Et on n'a pas vraiment l'impression que ça va se réduire, sauf dans certaines régions qui crient un peu plus fort.
Il y a quand même des experts du ministère des Transports qui ont calculé que pour certaines lignes fréquentées par moins de 200 passagers par jour, il coûterait moins cher de leur payer le taxi.
Ouais, il faudrait voir déjà s'il y a assez de taxis pour tout le monde. Et puis deuxièmement, s'ils seraient aussi performants l'hiver ou dans certaines circonstances.
Pierre Zambré, on se souvient de ce rapport Spinetta sur lequel s'était appuyé bien sûr le gouvernement pour faire sa réforme ferroviaire, qui avait déjà souligné cette fracture du système ferroviaire français. À l'époque, le dit rapport préconisait de fermer certaines petites lignes, en tout cas les moins rentables. Le gouvernement, lui, avait assuré qu'elles seraient maintenues. Et on voit que ce qui se passe, c'est qu'au fond, leur entretien coûte tellement cher aux régions qu'elles sont aujourd'hui menacées. Donc la logique économique est en train de s'imposer à tous. Donc finalement, le gouvernement a promis de ne pas y toucher, peut-être en sachant qu'en réalité, les fermetures se feraient naturellement, sans avoir besoin de prendre de décisions politiques.
Oui, j'aime bien le terme de naturel, mais c'est vrai qu'actuellement, les décisions de fermeture sont prises en fonction de l'état de la ligne, on va dire, et non pas de sa fréquentation ou du potentiel du territoire desservi. Le problème, c'est que les dessertes à l'heure actuelle sont de mauvaise qualité parce que ça correspond déjà à la dégradation de l'infrastructure qui a un petit moment. On fait des ralentissements sur le réseau depuis 2006. On a 4500 km de lignes qui ne sont pas parcourues à la bonne vitesse, hein, avec des vitesses beaucoup plus faibles, ce qui veut dire qu'il y a des ruptures de correspondance et qu'on n'est pas en mesure d'assurer l'ensemble du service qu'on sera en droit d'avoir sur ces lignes-là.
Au début du mois de février, Guillaume Pepy, donc le président de la SNCF, a déclaré dans un colloque « Je veux tordre le cou à une idée reçue, nous ne fermons pas de petites lignes ». C'est le cas, la SNCF ne ferme pas de petites lignes?
La SNCF ne ferme pas de petites lignes, je dirais, ne prend pas la décision. Simplement, un jour, Réseau, donc le gestionnaire de SNCF Réseau, vient voir les régions en disant « À partir de telle date, on est à limitation de vitesse zéro, qu'est-ce qu'on fait ?»
Oui, d'accord. Voilà, donc, et ça concerne combien de petites lignes, là, sur les dernières années?
J'ai à peu près un millier de kilomètres depuis 2011. Alors, ça s'était un peu calmé depuis les années 80 jusqu'au début des années 2010. Et puis, ça a repris, évidemment, au fur et à mesure des dégradations.
On parle d'une trentaine de lignes depuis 2010. Mais est-ce qu'il y a un plan, un programme de fermeture des petites lignes de la SNCF?
Non, il n'y a pas de programme, bien qu'on voit partout des cartes sur les petites lignes menacées. En fait, c'est une vision un petit peu logique en disant, à partir du moment où ces lignes ont des problèmes d'infrastructure, et où il n'y a pas de travaux de prévus à échéance raisonnable, il est certain qu'à un moment donné, le maintien va se poser.
Qui paye les conséquences de ces fermetures ? Intéressons-nous un tout petit peu au profil, évidemment, des usagers qui utilisent ces petites lignes. On a une sociologie de ces lignes de desserte fine du territoire, pour reprendre la formule visiblement adéquate ?
Alors, à l'heure actuelle, la desserte est très centrée sur le domicile travail ou le domicile étude. Donc, c'est des gens qui se déplacent sur une base régulière et donc qui font des parcours... qui sont connus, je dirais, de l'exploitant et de la région, qui sont faciles à organiser.
Et qui n'auraient pas les moyens de le faire en voiture ?
Si on veut ajouter des voitures sur les routes, pourquoi pas ? Mais en tout état de cause, on a des gens qui font parfois preuve de beaucoup de volontarisme pour prendre encore le train. Mais il va sans dire qu'on ne couvre absolument pas l'ensemble du potentiel qui pourrait être capté par les dessertes.
Alors Pierre Zambry, d'ici 3 ans, on pourrait voir arriver la concurrence dans ces petites lignes régionales. Est-ce que c'est un espoir pour les petites lignes ? Est-ce que l'ouverture à la concurrence peut sauver les petites lignes ?
Alors on va peut-être voir ça de deux façons. Le premier volet, je dirais, c'est les coûts d'exploitation. L'arrivée de nouveaux exploitants sur les rails français fera vraisemblablement poser la question des coûts d'exploitation et amènera vraisemblablement à les réduire. Donc les régions peuvent y gagner de ce point de vue-là. En revanche, ça ne règle pas le problème de l'infrastructure, ce qui veut dire que il va falloir quand même mettre de l'argent sur les infrastructures, investir, si on veut repartir sur un bon pied, sur des basses saines. Cela dit, on peut voir sur des exemples pas très loin d'ici, en Allemagne, que des lignes qui assuraient 2000 passagers par jour, après changement de prestataire et quand même quelques travaux pour améliorer la voie, sont passées à 10 000 passagers par jour.
Mais il y a même des petites lignes en Allemagne qui ont été réouvertes.
Oui, tout à fait.
Mais c'est quoi la recette du succès ? Comment se fait-il que les Allemands y parviennent ? C'est parce que précisément la concurrence ?
Ils ont compris que le ferroviaire, c'est une industrie en rendement croissant, ce qui veut dire que plus vous mettez de trains en ligne, moins ils coûtent cher et plus vous avez de chances de capter de la clientèle.
Donc ils sont rentables économiquement, ces petites lignes allemandes ?
Ils sont rentables. Attention, rentables, je l'ai dit, il n'y a aucun système de transport de public qui est rentable. Mais en tout cas, elles coûtent beaucoup moins cher au kilomètre que les lignes françaises.
Certains proposent, Pierre Zambry, de supprimer ces trains pour les remplacer par des cars. C'est le cas, par exemple, du député La République En Marche de Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebari. Alors lui, il propose de remplacer les rails par du bitume pour y faire rouler des bus. Que vous inspire cette solution ?
Alors moi, je vais dire deux choses. La première, c'est quelle que soit la réutilisation des plateformes ferroviaires, il faudra quand même faire des travaux conséquents d'assainissement des infrastructures, les plateformes, les ouvrages d'art. La voie n'est qu'un composant parmi d'autres. Donc là aussi, il faudra trouver de l'argent. On ne pourra pas transmuter comme ça du rail à autre chose sans qu'il y ait quand même un minimum de coût. Donc on peut se poser la question de savoir s'il vaut mieux pas garder l'unicité technique du réseau. Donc je pense que c'est quand même un élément important. Et puis bon, on a vu aussi d'autres solutions émerger. Je pense à celle qui était appelée le métro rural, ce qui m'a beaucoup amusé parce que c'est quand même simplement une exploitation en navette, c'est-à-dire un train à la fois sur la ligne. Alors si la ligne fait 10 km, c'est pas très grave, on peut faire beaucoup d'allers-retours. Mais nous avons un cas en France qui est la ligne de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, en Nouvelle-Aquitaine, 50 km. Avec ça, on peut faire que 4 à 5 allers-retours par jour. Et on peut pas faire plus, et on peut pas renforcer en heure de pointe.
Alors il y a d'autres solutions que le bus, il y a des projets particulièrement innovants. Je pense par exemple au Taxirail, qui est un train sans conducteur, électrique ou hybride, qui dispose d'une autonomie de 2 heures maximum et qui est destiné aux lignes qui ne dépassent pas les 50 km justement. Alors pour le moment, l'entreprise française qui propose ce train autonome n'a pas encore de prototype, mais est-ce que vous y croyez ? Est-ce que le salut des petites lignes passera par l'innovation technique et technologique ?
Oui, je pense qu'il faut pas hésiter. C'est peut-être là qu'il y a le différentiel le plus important de gain. À partir de situations qui sont quand même très très dégradées. C'est là qu'on peut espérer quand même, alors notamment avec le TER autonome, on y croit, c'est en train de se développer à l'heure actuelle. Donc on espère d'ici quelques années avoir des prototypes qui roulent cette fois-ci sur et qui sont des vrais trains, si on peut dire, et qui seront parfaitement interopérables avec les trains tels qu'on les connaît aujourd'hui.
Comment vous voyez l'avenir dans 20 ans ? Les petites lignes telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles existeront encore ou pas ?
Tout dépend de la volonté politique qui sera mise en œuvre et de la façon dont on considérera ces infrastructures qui sont quand même un patrimoine. Faut pas l'oublier.
Donc, quand dans 50 ans, les historiens se retourneront sur le passé, ils parleront pas forcément de mort naturelle, comme je l'ai fait au début de notre entretien, mais de responsabilité du politique.
Tout à fait. Il y a quand même une décision qui est prise à un moment donné.
Merci beaucoup, Pierre Zambry. Je rappelle que vous êtes professeur en urbanisme et transport à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et directeur du laboratoire Ville Mobilité Transport.